RMC.
Der kommt an! Marin! Marin, der Martin! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Müller! Und das Tor! 1:0 für Deutschland, 12. Minute!
Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor!
RMC, After Allemagne,
Jérôme Sillon.
Salut à tous, merci d'écouter l'After Allemagne, votre nouveau podcast RMC. Chaque semaine, on vous emmène à la découverte des clubs, des joueurs et des histoires du football allemand. Alors pensez à vous abonner à la chaîne de l'After Allemagne pour ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de donner une note. Comme chaque semaine dans l'After Allemagne, j'accueille notre drôle de dame allemande, Polo Breitner. Salut Polo!
Bonsoir mon cher Jérôme, bonjour tout le monde.
Tu as vu qu'on a un nouveau générique avec des buts historiques.
J'ai apprécié, ça avance, on avance.
Voilà, Mario Götze évidemment en finale de la Coupe du Monde 2014. Thomas Müller, oui. C'était également au Mondial brésilien. Et puis Rahn, c'était
il y a beaucoup... 1954.
Voilà, c'était il y a plus longtemps encore. Ouais. Évidemment, on a un invité de prestige aujourd'hui, Polo, l'attaquant français du Bayer Leverkusen, Martin Terrier. Wiegetz, Martin?
Bonjour, ça va, merci.
Ça va, tu t'en sors avec l'allemand?
Ouais, j'ai commencé les cours, là j'ai fait une fois par semaine avec un prof particulier, donc ça avance tout doucement.
Tu connaissais déjà un petit peu l'allemand, t'avais à l'école, donc pas du tout?
Pas du tout, j'avais fait anglais, espagnol, donc l'allemand c'était vraiment l'inconnu pour moi.
Bon, Martin, on va parler de ta nouvelle vie à Leverkusen, de ton début de saison avec le Werkself, du duel avec le Bayern, que toute la Bundesliga attend, de la méthode Xavi Alonso et d'autres choses encore. C'est parti pour l'After Allemagne.
Wirst du auch ewig Zweiter sein, bleibst du die Eins vom Rhein. Die großen Nachbarn wissen das, da kannst du stolz drauf sein. Da kannst du stolz drauf sein. Leverkusen, unsere Stadt, unsere Welt, unsere Heimat.
Alors Polo, on commence en musique avec l'hymne de la ville de Leverkusen. Pourquoi tu as choisi cette chanson, Polo?
Ben justement parce que c'est l'hymne de la radio officielle de Leverkusen, donc quand les gens partent travailler très tôt le matin et qu'ils sont dans les embouteillages, ils ont le droit d'allumer la radio et ils entendent cette chanson. Et je trouvais ça très intéressant. Et je voulais juste poser une petite question, est-ce que vous savez d'où vient le nom de Leverkusen?
Pas du tout.
Alors c'est pas compliqué, c'est qu'en fait au 19e siècle, il y avait un monsieur Karl Leverkusen qui était pharmacien et qui était un entrepreneur en chimie. Très important de la région, et à son décès, il a fallu que les différents villages qui étaient là s'associent ensemble, et on cherchait un nom, et on a décidé de l'appeler Leverkusen. Et comme par hasard, ce monsieur qui était chef d'entreprise en chimie, a vendu la société, enfin son successeur, son fils, a vendu la société à une autre société qu'on connaît beaucoup mieux qui s'appelle Bayer. Et donc Leverkusen est devenu, monsieur Leverkusen a autorisé qu'on appelle la ville, l'association de ces villages, Leverkusen. Et c'est pour ça que le grand ennemi de Cologne, qui ne supporte pas Leverkusen, mais en plus Leverkusen a de meilleurs résultats, considère toujours que Leverkusen, même si aujourd'hui c'est entre 150 et 200 000 habitants, ce sont juste des petits villages et ce sont des paysans, quoi. C'est vraiment la banlieue, quoi. On n'en veut pas beaucoup du côté de Cologne. Donc c'est comme ça que c'est arrivé le nom de Leverkusen. Cousin, et évidemment, Bayer, on sait, la multinationale spécialiste de chimie et pharmacie et des médicaments qui a racheté notamment la société de ce monsieur Karl Leverkusen.
Voilà, on en apprend plein de choses évidemment dans l'After Allemagne grâce à toi, Polo. Martin, est-ce que à ton arrivée d'ailleurs au club du Bayer Leverkusen, il y a la dimension historique qui vous est racontée? Est-ce qu'on vous parle un petit peu du club, de son histoire, de son palmarès?
Alors pas vraiment, mais moi j'ai eu le droit à la soirée d'intégration avec les partenaires pour pouvoir un peu mieux connaître le club.
Et ça se passe comment ce genre de soirée?
C'est des soirées assez simples. Déjà c'est aussi une soirée qui permet aux nouveaux de se présenter. Alors moi bien évidemment je me suis présenté en anglais, pas en allemand, parce que j'ai pas encore le vocabulaire nécessaire, mais c'est sympa puisque ça permet d'apprendre l'histoire du club et aussi de rencontrer les personnes qui gravitent autour du club.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton transfert au Bayer Leverkusen, comment ça s'est déroulé, ça s'est passé lors de la première quinzaine du mois de juillet, c'est ça hein?
Ouais, exactement. Alors, pour tout vous dire, ça a été assez rapide. Mon agent a reçu un appel du directeur du recrutement du Bayer, donc ça s'est fait naturellement. Après, on a été en contact avec Simon et le coach. J'ai pu
Simon, c'est Simon Rolfes, hein, c'est ça, c'est le directeur sportif.
Exactement, tout à fait. Et voilà, après, on a eu quelques échanges orales par visio, donc ça s'est très bien passé. Et après, le plus compliqué, on va dire, c'est l'accord entre les deux clubs. Mais ça, grâce aux dirigeants du Stade Rennais, que je remercie chaleureusement, ça s'est fait plutôt facilement.
Transfert de 20 millions d'euros. En fait, tu voulais rester en rouge et noir, quoi.
C'est vrai qu'on m'a fait la réflexion quand j'ai signé. C'est cool de rester en rouge et noir. Ça va me suivre.
Polo, une petite question peut-être sur l'intégration de Martin Terrier à Leverkusen.
Oui, alors je vais être très honnête, j'ai été un petit peu surpris par ce transfert, non pas par rapport aux qualités de Martin, mais parce que je me demande si Leverkusen n'est pas en train de changer de modèle depuis que coach Alonso est arrivé. Je m'explique, jusqu'en 2002, on a évidemment une énorme équipe, c'est la fameuse équipe qui est en finale de Ligue des Champions, avec des stars comme Balak, etc. Et ensuite, on a baissé un petit peu la voilure avec des jeunes, notamment qui sortaient du centre de formation, pas n'importe lesquels, on pense à Kai Havertz et évidemment au prodige Florian Wirtz. Et là, depuis deux ans, le retour de joueurs de trentenaires l'année dernière, comme Xhaka ou l'arrivée d'Hoffman, et là, des joueurs comme Garcia ou Martin, qu'on achète 18-20 millions d'euros, c'est pas dans la stratégie habituelle de Leverkusen. Et moi, j'aimerais poser une question pour cette intégration à Martin. Est-ce que on a parlé un petit peu de ce changement de joueurs un peu plus aguerris dans les négociations, etc., qu'on souhaitait à Leverkusen, ou c'est juste le choix d'Alonso qui souhaitait absolument avoir Martin Terrier?
Alors, on m'a pas parlé de ça exactement, on m'a plus parlé de profil de joueurs à mon poste, notamment d'un profil de joueurs qui pouvait évoluer entre les lignes, et aussi un profil de joueur assez polyvalent qui peut évoluer à plusieurs postes. C'était plutôt ce genre de discussion qu'on a eu.
Comment se passent justement tes premiers pas avec le Bayer? Bon, ton premier match, c'est pas passé comme tu l'avais imaginé. Titulaire en Supercoupe d'Allemagne face à Stuttgart, bim, carton rouge à la 37e. À quoi on pense à ce moment-là là?
Alors, ce qui est marrant pour la petite anecdote, c'est que lors de mon arrivée au Stade Rennais, j'ai aussi pris un carton rouge lors de mon premier match officiel. À domicile en plus. Donc ça m'a rappelé des souvenirs.
T'as pas paniqué quoi?
Ah, j'ai paniqué parce que c'était une finale quand même, donc voilà, un trophée à aller chercher, et d'autant plus que c'était en première mi-temps, donc j'ai laissé l'équipe à 10 contre 11 assez rapidement. Tout ce que je voulais, c'était que l'issue finale soit positive pour nous.
Bon, et ça a été le cas puisque derrière le Bayer a remporté cette Super Coupe d'Allemagne. Depuis ce premier match, tu as été titulaire trois fois, dont deux en Bundesliga, une en Champions League, et puis à Hoffenheim, le 14 septembre, il se passe ceci.
Und da erwischte man den perfekten Start in der 17. Spielminute. Allerdings ging erst einmal die Fahne hoch beim vermeintlichen Tor von Martin Terrier. Aber wie wir hier sehen können, Victor Boniface nicht im Abseits und dementsprechend auch nicht der Franzose. Und so nach Ansicht der Bilder dann doch Pflichtspieltreffer Nummer 1 unterm Kreuz für Martin Terrier.
Voilà, le but sur la pelouse d'Offenheim sur un service de Victor Boniface. Il n'y avait pas hors-jeu sur cette action-là, même si le drapeau avait été levé par l'arbitre assistant. C'est un but important, Martin, parce que c'est d'abord ton premier sous le maillot du Bayer Leverkusen, mais en plus parce que le match d'avant, deux semaines auparavant, c'était la fin de l'invincibilité en Bundesliga du Bayer avec cette défaite à domicile contre Leipzig.
Ouais, tout à fait. Après, voilà, pour un attaquant, c'est toujours bien de marquer. Voilà, c'était mon premier but, et en plus, c'est l'ouverture du score, donc ça nous a mis dans de bonnes conditions pour le restant du match. Mais voilà, on a une équipe qui est très offensive, et je suis persuadé qu'il y en aura beaucoup d'autres.
Polo.
Alors, moi je suis très intéressé par une question, c'est cette fameuse défaite contre Leipzig. C'est plus la défaite de Leverkusen que la victoire de Leipzig d'ailleurs, même si Openda fait une superbe rencontre. Et à l'époque, je me posais la question, ça ne concerne pas Martin directement, parce qu'il n'était pas là l'année dernière, si on n'était pas en train, l'assurance du jeu de Leverkusen, qui est extraordinaire encore une fois depuis le début de la saison, n'était pas en train de se transformer en suffisance. Et beaucoup ont dit que cette défaite finalement va faire du bien à Leverkusen, parce que au moins on va plus penser à l'année dernière, qui était considérée évidemment comme la saison du siècle, hein, pour Leverkusen. Et donc moi je voudrais savoir un petit peu dans les vestiaires comment ça s'est passé, cette défaite à Leverkusen, cette défaite contre Leipzig pardon, et de les petits écarts qu'il y a en ce moment, les 9 buts encaissés en défense, Xhaka qui râle un peu après le 4-3 de ce week-end contre Wolfsburg, des choses comme ça. Est-ce que en ce moment on sent que on doit encore augmenter de niveau? Et j'oublie la superbe victoire contre le Feyenoord Rotterdam, qui est loin d'être évidente, le 4-0 en Ligue des Champions. Et donc, est-ce que on est encore dans une phase, entre guillemets, de transition? On est en train de digérer, les anciens sont en train de digérer le titre de l'année dernière. Et si finalement, il ne faut pas encore attendre un petit peu avant qu'on ait le Leverkusen 2024-2025 qui soit aussi performant que l'année dernière?
Alors moi, je pense que le souci de ce début de saison, c'est les buts qu'on concède. Parce que globalement, on a la maîtrise des matchs, on le voit bien, on se crée quand même beaucoup d'occasions. Malheureusement, pour le moment, ce qui nous manque, c'est cette constance dans les périodes où on est un peu moins bien durant la rencontre. Je pense que ça part d'une mentalité, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit un peu plus ensemble, un peu plus solidaire sur les moments où on n'a pas le ballon, pour éviter de prendre des buts assez faciles, puisque si on regarde bien les matchs, les buts qu'on prend, c'est des buts qu'on donne un peu.
Et puis, donc cette deuxième place de Bundesliga, ça veut dire que le début de saison est quand même réussi, avec 3 victoires en 4 matchs. Vous êtes à 3 longueurs du Bayern, et ce samedi, il y a donc Bayern, c'est le choc que toute l'Allemagne attend. J'imagine que tous les supporters vous en parlent sur place, Martin Terrier.
Ouais, c'est vrai que les fans attendent ce match avec impatience, des deux côtés en plus. Après, voilà, ici au club, on en discute beaucoup, on sait que ça va être un match d'intensité Ligue des Champions. Et en tout cas, on s'est bien préparé cette semaine et on a hâte d'en découdre.
Polo, il y a un gros engouement autour de cette rencontre, hein.
C'est fou, j'ai pas connu ça depuis longtemps. J'ai envie de remonter un petit peu aux périodes Jürgen Klopp contre le Bayern 2011, 2012, 2013. C'est fou. Je sais pas si vous avez vu passer l'information comme quoi le Bayern Munich, dès le mois de juillet, a dû fermer son portail de réservation pour les billets. On est au mois de juillet, hein, c'est-à-dire la saison n'a même pas commencé.
J'avais pas vu l'info.
351 000 demandes de billets à l'époque. C'est Kicker qui a sorti l'information.
Incroyable.
Donc cinq fois la capacité de l'Allianz Arena, qui est quand même de 75 000 places, hein, et qui est toujours remplie. Et c'est complètement fou. Et je donnais dans l'after lundi l'exemple de ce qui s'est passé ce week-end. On a eu une J4 extraordinaire, notamment le match Leverkusen-Wolfsburg, mais aussi le 5-0 que le Bayern a infligé à Brême, etc. Et les commentateurs allemands avaient déjà switché sur le match de ce week-end. Moi, honnêtement, je suis excité comme une puce. Tout le monde attend cette rencontre parce qu'on sent justement qu'il va y avoir du sang. De quel côté, on ne sait pas. Que tous les pronostics peut-être sont en train de changer parce qu'on se posait beaucoup de questions sur compagnie. Et finalement, le Bayern, on a réutilisé le terme de machine. On sait ce que ça veut dire en Allemagne, un pays industriel. Dès qu'on utilise pour le Bayern le terme de machine, on sait ce que ça veut dire, qu'ils veulent écraser les autres. Et puis on voit le niveau de Leverkusen avec, entre guillemets, toujours cette petite fragilité en ce moment défensif. On ne sait pas ce que ça va donner, etc. Florian Wirtz est extraordinaire. Martin Terrier est devenu le titulaire, en fait, avec Boniface, évidemment. Et tout ça, on ne sait pas ce que ça va donner ce week-end en top spiel. Mais je peux vous assurer qu'on ne parle que de ça. C'est-à-dire que c'est Compagnie contre Alonso, c'est Wirtz contre Musiala, c'est Harry Kane contre Boniface, c'est Kimmich contre Granit Xhaka, etc. J'ai, encore une fois, ça fait quelques années quand même que je suis la Bundesliga, je n'ai jamais entendu ou vu un tel engouement, ou alors il fallait vraiment remonter dans le temps à des équipes qui pouvaient lutter avec le Bayern pour le titre. En tout cas, c'est très bien pour le Bayern 04 Leverkusen.
Martin, tu te rends compte de cet engouement et à quelle ambiance tu t'attends à l'Allianz Arena?
Bah, c'est vrai que j'allais rebondir sur ce que Polo vient de dire, c'est que moi, il y a un mois, j'ai fait une demande pour avoir des places pour ce match-là, pour mes proches, parce que j'ai des frères qui sont dans le foot, donc forcément intéressés par ce genre de match. Et on m'a indiqué il y a un mois déjà que c'était déjà sold out, c'était complet. Donc aucun moyen d'avoir des places pour les proches. Donc c'est quand même assez impressionnant. Moi qui, dans ma carrière, a toujours réussi à avoir des places pour mes proches, là, là, j'ai quelques soucis. Ouais, ça prouve l'engouement exceptionnel de ce match.
Et à quel match tu t'attends justement ? À quelle ambiance ? J'imagine que c'est aussi pour toi. Tu as connu évidemment le Vélodrome avec Marseille, le Parc des Princes avec le PSG. Mais là, jouer sur la pelouse du Bayern, voilà, c'est quelque chose de grand aussi dans une carrière quand on arrive comme ça en Allemagne.
Bien sûr, on fait ce métier pour vivre ce genre de moment. J'ai hâte d'y être. Je m'attends à une ambiance complètement chaude, notamment parce que voilà, la saison dernière, Leverkusen a remporté le titre face au Bayern. Donc voilà, ça va être un grand match.
Ouais, et le Bayern Leverkusen a mis fin, on le rappelle, Polo, à 11 titres consécutifs du Bayern Munich. Hein, on l'oublie pas ça.
C'est vrai. Il y a plein de choses qui sont importantes parce que je raconte juste une anecdote en début de saison. Les anciens, évidemment, on s'exprime toujours pour savoir qui va gagner le titre de l'année qui arrive. Et évidemment, les anciens, souvent des anciens bavarois d'ailleurs, sont interrogés par la presse. Et évidemment, ouais, le Bayern Munich va attaquer, c'est normal, il va reprendre son titre, blablabla. Et puis on a commencé à voir jouer Leverkusen 2024-2025, puis on s'est dit, ah bah tiens, c'est reparti comme l'année dernière. Donc finalement, Leverkusen a réussi en fait à changer un petit peu les pronostics, à tel point que certains journalistes disaient bah, qu'est-ce qui va se passer au Bayern à la fin de cette saison, bah oui, on va changer de coach, le Bayern ne sera pas champion et on va changer de coach encore une fois, etc., etc. C'est un peu ce qui se passait dans les émissions, les talks qui discutent de la Bundesliga. Moi, j'attends cette rencontre d'une façon complètement folle. Ça montre ce qu'est redevenu Leverkusen par rapport à la période, on va dire 97-2002, etc., où ils ont toujours été deuxième. Mais moi, encore une fois, l'année dernière, on disait « Ah, c'est extraordinaire, Leverkusen est devenu champion ». Mais honnêtement, quand on voit les équipes d'avant, Leverkusen aurait déjà dû être champion. Donc moi, je sais que ça va être très dur, ce qui va se passer samedi à l'Allianz Arena. Ça va être très compliqué, il ne faut pas prendre l'eau. Il faut vraiment comprendre, il faut faire confiance aux anciens. Ce qui va se passer, Leverkusen a montré l'année dernière qu'ils étaient capables de battre le Bayern. Le problème, c'est que le Bayern, depuis le début de saison, et même s'il y a aussi des petits problèmes, hein, parce que le 9-2, on peut parler des 9 buts contre Zagreb, mais il y a les 2 buts encaissés. Il y a le match aussi à Wolfsburg, où ils ont été menés 2-1, où ils ont explosé défensivement en une dizaine de minutes. Tout ça fait que ça doit être exceptionnel de travailler tactiquement. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il ne faut surtout pas prendre l'eau, parce que si la machine bavaroise se met en route, ça va faire très très mal. C'est pour ça que je dis que ça sent le sang. Mais moi, je ne sais pas de quel côté ça va tourner, en fait.
Ça peut aussi se finir par un match nul. Martin, avant de parler de ton début de saison, de tes ambitions personnelles en Allemagne, d'abord un mot sur les ambitions du club. Qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu as signé ? C'est quoi ? C'est de faire le doublé, le back-to-back ? Je ne sais pas, il y a un terme d'ailleurs peut-être en allemand pour ça, Polo, tu me diras. Le deuxième titre d'affilée, gagner la Ligue des Champions peut-être, je ne sais pas, c'est quoi les ambitions ?
Alors, les ambitions sont claires pour rapport à la Bundesliga, c'est de défendre le titre et pourquoi pas remporter une deuxième année consécutive le championnat. Et pour ce qui est de la Ligue des Champions, on n'a pas discuté d'ambition, mais je sens cette ferveur autour de l'équipe et autour du staff de gagner tous les matchs. Donc, je suppose que l'objectif est d'aller le plus loin possible.
Ouais, parce que le président a été très ambitieux, Polo, on le rappelle, pour la Champions
Alors,
League.
Le président Caro, et là c'est aussi une question que j'ai pour Martin, le président Caro, donc lui veut absolument remporter la Ligue des Champions. Je ne sais pas si ce sera possible pour Leverkusen, mais moi je me posais la question, quand je vois le décalage, on parlait des problèmes d'ajustement défensif de Leverkusen cette saison, Martin, le décalage qu'il y a entre la prestation que vous avez réalisée à Feyenoord, aux Pays-Bas, et celle que je vois encore ce week-end contre Wolfsburg, où on parle de ce fameux truc mystique, le Chabi Time, etc., où on arrive à faire exploser l'équipe adverse dans les dernières minutes, qui finissent toujours avec un joueur en moins, ce qui était le cas l'année dernière, ou de marquer durant les arrêts de jeu, ou de marquer dans le dernier quart d'heure ou dans les 5 dernières minutes. Est-ce que lorsqu'on a près de 80% de possession de balle ce week-end, est-ce que cela est positif ou négatif ? C'est-à-dire que le spectacle, moi c'est génial, hein, dans mon canapé, je m'éclate, hein, c'est pas la question. Mais quand je suis coach de Leverkusen, est-ce que je me dis, mais finalement, ils sont tellement braqués sur la Ligue des Champions pour essayer d'aller faire quelque chose, notamment parce que le président Caro l'a dit, que le pain quotidien, le Schwarzbrot, comme on dit en Allemagne, le pain noir, c'est la Bundesliga est un peu plus compliquée parce qu'on se relâche entre guillemets.
Je voulais te dire aussi que le coach n'était vraiment pas content de notre prestation après la victoire contre Wolfsburg. Je pense pas qu'il y ait de relâchement sur les matchs de championnat. En tout cas, nous, toute la semaine, on travaille pour gommer ces petites erreurs défensives comme tu l'as énoncé. On a une salle vidéo qui est extraordinaire avec des analyses qui sont très précises. Donc, j'ai aucune inquiétude par rapport aux petites errances qu'on a sur ce début de saison.
Tu parlais du coach et donc de son mécontentement après la victoire le week-end dernier. Parle-nous un petit peu de la méthode Xavi Alonso, l'entraîneur que toute l'Europe voulait cet été. Le Bayern le voulait, Liverpool le voulait. Il est resté au Bayer Leverkusen. Parle-nous un petit peu de sa méthode, sa philosophie. Qu'est-ce que tu as découvert ?
Alors j'ai été impressionné sur les premiers entraînements par l'intensité qui a été mise par les joueurs, mais aussi par le coach, parce que dans mes précédents clubs, c'est vrai que souvent les séances d'entraînement étaient dirigées la plupart du temps par les entraîneurs adjoints, et c'est vrai que Xabi, je trouve qu'il est là à 100%, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige la séance avec ses adjoints, mais c'est principalement lui qui a la parole, et on sent vraiment beaucoup d'intensité dans les séances.
Et pour le reste, parce que moi j'ai vu les images aussi, c'est vrai que c'est impressionnant. Non seulement il dirige, mais il participe, c'est-à-dire qu'il touche le ballon aussi.
Ouais, c'est vrai que c'est là qu'on voit que c'était un très grand joueur parce qu'il n'a pas perdu grand-chose.
Et qu'est-ce qu'il vous demande d'un point de vue tactique ? Explique-nous un petit peu, parce que ce système du Bayer Leverkusen, maintenant on le sait, c'est le 3-4-3. Mais concrètement, quelles sont les grandes orientations tactiques ?
Les grandes orientations tactiques, c'est d'avoir la maîtrise du ballon. Et de provoquer des fautes chez l'adversaire. Mais principalement, c'est d'avoir la possession, d'avoir de la stabilité dans le jeu pour pouvoir progresser, surtout qu'avec les joueurs techniques et les joueurs de ballon qu'on a, on sait forcément qu'on aura des opportunités.
Polo, une question sur Xabi Alonso pour Martin.
Ouais, est-ce qu'il vous parle aussi du contrôle de la rencontre ? Xabi Alonso, en conférence de presse, parle beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'il faut, même si on est mené au score, il faut qu'on ait le sentiment de maîtriser la rencontre. Est-ce que dans ses entraînements ou la façon psychologique, il dit, voilà, c'est nous qui allons faire ça. Vous en avez parlé, l'histoire de la possession, c'est très important pour Xabi Alonso. Mais c'est de les temps forts, les temps faibles, on sait les gérer, on maîtrise la rencontre. Vous inquiétez pas, il y a un moment, ça va rentrer.
C'est exactement ça. C'est vrai que moi aussi, j'ai été impressionné par ce fait-là. C'est que on se concentre beaucoup plus sur notre jeu que sur celui de l'adversaire. C'est dire que voilà, le coach veut nous donner cette impression de supériorité par rapport à l'adversaire. C'est-à-dire qu'on s'occupe plus de nous que de l'équipe qui est en face de nous.
Polo a parlé du Xavi Time, ses victoires dans le temps additionnel. Cette saison, il y en a déjà eu deux à Gladbach et donc contre Wolfsburg. Bon, vous avez un secret, il y a une potion magique. C'est quoi le truc, Martin ? Dis-nous tout. Nous, on veut savoir.
Alors, moi je découvre aussi. Donc, c'est assez impressionnant aussi de l'intérieur. C'est cette sensation de légèreté quand le score ne nous est pas favorable et qu'on approche les dernières minutes. Je pense qu'aussi, vis-à-vis des adversaires, je pense qu'il y a une certaine peur qui est présente chez l'adversaire quand on arrive dans les dernières secondes. Voilà, par exemple, contre Wolfsburg, quand j'ai vu qu'il y avait 6-7 minutes de temps additionnel, j'étais persuadé au fond de moi qu'il allait se passer quelque chose.
Ouais, donc c'est du domaine, c'est pas de la mystique, mais c'est de l'auto-persuasion. En fait, on est tranquille, quoi.
C'est des croyances. Ouais.
Alors, il y a un autre aspect, Polo, de la méthode Xabi Alonso, c'est la rotation entre les joueurs.
Ouais. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup les coachs qui arrivent à motiver tout leur groupe et qui n'ont pas forcément à l'ancienne, j'ai envie de dire, 11 titulaires plus 3 remplaçants, maintenant il faut dire plus 5. J'aime beaucoup ça parce que ça permet notamment de motiver tout le groupe à des moments particuliers. Le problème, et Xabi Alonso d'ailleurs a confirmé qu'il continuerait cette saison alors que des critiques déjà l'année dernière avaient commencé à apparaître sur cette méthode-là, parce que pour des matchs très importants, je pense au match à la Roma l'année dernière en demi-finale retour, on avait mis l'équipe A prime, j'aime pas dire l'équipe B, l'équipe A prime, et la Roma au match retour après une prestation aller maîtrisée de fond en comble par Leverkusen, et ben était menée 2-0, il a fallu revenir à deux partout, etc. C'était un peu fou cette rencontre. Il y a le fait que dans le dernier trimestre peut-être un petit peu de baisse de régime, mais évidemment il faut faire reposer certains joueurs, mais on a bien vu que ça ne fonctionnait plus et que j'ai presque envie de dire le grand Leverkusen de la première partie de saison n'était plus là lors du dernier trimestre. Et là, je me pose aussi la question, lorsque je regarde l'effectif, Je me dis, on a 11 joueurs, 12 joueurs, 13 joueurs de très très haut niveau, mais je ne suis pas persuadé que le banc soit au niveau des titulaires. Et ça, sans critiquer personne, évidemment, parce que c'est le fait que Martin soit quasiment tout le jour titulaire, c'est déjà une belle réussite. Je me pose la question, que va-t-il se passer si Boniface se plaît, il y a Chic. Que va-t-il se passer si Florian Wirtz n'est plus à son niveau alors qu'il est extraordinaire en ce moment? Garcia, je trouvais extraordinaire son match de Supercoupe. Il avait un pied, ça allait partout, les coups francs, les corners, c'était génialissime. Sauf que depuis, on l'a vu rejouer, je ne l'ai pas vu le même niveau. Andrich, il est à son niveau. Palacios revient de blessure et tout ça. Je ne sais pas si la rotation, j'ai pas envie de dire systématique, mais systémique de Xabi Alonso est fondamentalement une réussite pour le Leverkusen 2024-2025, et j'aimerais l'avis de Martin à ce niveau-là.
Alors, c'est un peu compliqué. non, mais c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question, même si globalement, je comprends ce que tu mets en avant. Voilà, nous, de l'intérieur, on voit peut-être les choses un peu différemment. Donc, là, pour le coup, c'est une question qu'il faudrait poser au coach. Mais moi, de l'intérieur, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment... Il y a vraiment de la qualité, que ce soit les titulaires ou les remplaçants.
Et il t'en a parlé justement de cette rotation qu'il allait mettre en place, y compris pour toi, parce que je le disais, tu as débuté deux matchs de Bundesliga, mais tu en as fait deux autres également en démarrant sur le banc.
Alors non, j'en ai pas discuté avec lui. Je pense qu'il a des idées précises de ce qu'il veut sur chaque rencontre. Mais il n'en parle pas forcément avec le joueur concerné.
D'accord. Bon, d'un point de vue plus personnel, toi, quel regard tu portes sur tes premiers mois, sur tes premières semaines au Bayer Leverkusen, Martin? D'un point de vue stat, un but en 6 matchs, j'imagine que tu trouves ça bien mais insuffisant.
Bien sûr, oui, c'est loin de mes standards. Après, voilà, il faut prendre en considération aussi que j'arrive dans un nouveau club. Un club qui a déjà la globalité de son effectif qui était là la saison dernière, donc je suis un nouveau. Je trouve que mon intégration, c'est quand même très positive, mais j'en veux plus, forcément.
Tu t'es fixé des objectifs chiffrés ?
C'est compliqué de mettre des chiffres, mais c'est sûr que mes standards doivent être beaucoup plus hauts que celles de la saison dernière. Par exemple, j'avais fait 9 buts, 4 passes décisives. J'aimerais facilement dépasser la barre des 10 buts.
Polo, ce qui nous plaît, nous, quand on regarde les matchs de Martin depuis le début de la saison, c'est que moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il est tout de suite connecté à ses coéquipiers. En fait, il s'est parfaitement intégré au schéma de jeu.
Ouais, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, dans le 11 de départ, le 11 titulaire aujourd'hui, Martin est la seule nouveauté, en fait. Tous les autres, et ça a été l'une des grandes réussites de ce mercato qui, moi, m'a beaucoup surpris, c'est qu'ils ont réussi à conserver tout le monde. Et ils ont amélioré, au minimum, au niveau quantitatif, mais aussi qualitatif, avec l'arrivée de Martin Terrier. Donc moi, je trouve ça génial, et on sent une confiance dans ce groupe-là. C'est pour ça que je faisais tout à l'heure le rapport entre... faut faire attention de pas devenir arrogant, de pas devenir suffisant. Je parle des anciens qui ont tout gagné, sauf la finale d'Europa League l'année dernière. Il faut pas être trop facile. Et il y a des moments, j'ai le sentiment que Leverkusen est un peu trop facile. Maintenant, quand on a un joueur comme Florian Wirtz, je pense que ça doit être le kiff complet pour Martin Terrier d'avoir un petit prodige comme ça qui s'amuse à tous les postes où on le met en meneur de jeu, deuxième attaquant, ce qu'on veut, etc. Mais c'est vrai que Martin s'est bien intégré pour l'instant. Je suis personnellement très exigeant parce que j'ai vu Leverkusen l'année dernière et je souhaite au minimum la même chose cette saison. Hein. Donc c'est la question des buts, la question de comment on joue, etc. Le match de ce week-end va être génial, je pense que ça va être génial. Mais bon, on peut se tromper. Mais c'est vrai que la façon dont Martin est dans le 11 titulaire, réussit à jouer tout de suite avec ses partenaires, est exceptionnelle, très très rapide. En gros, il est en concurrence aujourd'hui avec Amin Adli, qui n'a pas tout à fait le même profil. Il y a un grand perdant, c'est Hoffman quand même, hein, c'est un peu surprenant de ma part, parce que l'année dernière, les 6 premiers mois, il était génialissime aussi, et c'est l'une des grandes forces, le trentenaire qui débarquait de Mönchengladbach, d'avoir porté Leverkusen l'année dernière. Mais on a l'impression que c'est un petit peu la même chose. Il faut juste quelques réglages pour retrouver le même Leverkusen, voire mieux que l'année dernière. En tout cas, moi, je trouve le début de saison extraordinaire. La défaite, pour moi, ça va faire du bien parce que ça va remettre contre Leipzig. Ça fait, parce que dans la tête, ça fait des, même quand on est nouveau, ça doit pas être évident. Mais dans la tête, ça va faire beaucoup de bien, je pense, en disant que c'est très fragile, toujours le football. Hein. Mais il y a des ambitions qui sont là. Il y a un club qui a souvent été critiqué parce que c'est ce qu'on appelle un Finanzspritz, hein. C'est une piqûre financière, hein, parce qu'il y a le groupe Bayer qui est derrière, hein, faut pas l'oublier. Donc en Allemagne, avec le système associatif, et c'est un club qui est souvent critiqué, le Werksclub. Je trouve tout ça très intéressant, et je pense que le choix de carrière de Martin est assez exceptionnel.
Tu peux nous parler de ta connexion technique avec tes coéquipiers sur le terrain, avec qui tu t'entends bien, par exemple, avec qui tu sens que c'est fluide?
Je pense que tout le monde le sait, mais avec Florian Wirt, ça se passe très bien parce que naturellement on a une connexion technique. Je pense aussi à Granit Xhaka avec un joueur d'expérience. C'est vraiment un régal de jouer juste devant lui parce que voilà, il me conseille beaucoup sur mon placement et ça c'est facile après pour moi de comprendre le jeu. Et avec Boniface aussi, ça se passe très bien. Voilà, il y a des connexions naturelles qui se sont faites dès l'instant où je me suis entraîné avec le groupe. Donc ça c'est très positif pour la suite.
Le joueur le plus fort de l'effet. Vas-y, je t'en prie, Polo.
Excuse-moi. Et avec les latéraux, Frimpong et Grimaldo, quel est ton travail?
Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à jouer sur le côté gauche. Là c'est un peu une nouveauté pour moi parce que je suis dans le 3-4-3 mais plus entre les lignes mais plus côté droit, donc ça aussi c'est des choses que je dois au niveau des repères travailler parce que j'ai toujours eu la tendance à partir de la gauche pour rentrer sur mon pied droit. Là c'est un peu différent parce que c'est Florian Wirtz qui utilise cet espace là mais c'est sûr que d'avoir des joueurs comme Frimpong sur le côté qui prend tout le couloir et d'avoir de l'espace pour me déplacer assez librement sur le terrain, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement.
Le joueur le plus fort de l'effectif, c'est vraiment Florian Wirtz. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Ouais, Florian Wirtz, en plus, là, j'ai l'impression qu'il peut tenter ce qu'il veut. Ça va lui réussir parce que c'est quelqu'un qui prend les responsabilités, qui prend les risques, dont ça lui réussit. Et j'espère que ça continuera. Mais je mettrai aussi Granit Xhaka à ce niveau-là, c'est-à-dire vraiment un niveau du haut niveau, du très haut niveau, et aussi Grimaldo.
Ouais, avec les pieds gauches de
c'est
Grimaldo.
C'est vraiment pour moi les trois joueurs qui m'ont impressionné.
Alors, on a beaucoup parlé de toi il y a quelques saisons pour l'équipe de France. Martin Terrier, au sortir de ta meilleure saison, c'était en 2021-2022. Je rappelle que tu avais marqué 21 buts en Ligue 1, puis tu avais démarré fort la saison suivante avec 8 buts. C'était juste avant la Coupe du Monde. Bon, finalement, Deschamps t'a pas emmené au Qatar, mais j'imagine que les Bleus, dans ton parcours dans ta carrière, dans ton parcours de vie et le fait de signer en Allemagne, c'est j'imagine que tu y penses encore. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Bien sûr, d'autant plus que je pense qu'il ne faut pas se fier à l'âge, même si aujourd'hui voilà, j'ai 27 ans, j'entame une nouvelle étape dans ma carrière. Après, voilà, ce n'est pas une obsession pour moi, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un an jour pour jour, j'étais encore en rééducation, j'étais même pas encore sur le terrain. Donc l'évolution que j'ai pu avoir sur cette dernière année par rapport à ma blessure notamment, c'est très positif et c'est ce qui doit m'animer pour la suite.
Bon, et puis tu es bien entouré aussi, parce que ça parle français dans le vestiaire du Bayer Leverkusen.
Oui, il y a plusieurs francophones. Après, voilà, j'avais des bonnes bases en anglais. Pratiquement tout le staff et tous les joueurs parlent en anglais pour communiquer ensemble. Donc, je vais dire que c'est assez simple pour le moment.
Ouais. Amine Adli, Januel Bellossian et Nandi Moukele, ce sont les autres Français de l'effectif.
Ouais, il y a aussi Tapsoba qui parle français. Et Jonathan Tah aussi, j'étais surpris, il est allemand, mais son père est ivoirien, donc il parle très bien le français.
Ouais, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de lui poser une question après un match de l'équipe d'Allemagne en français. C'est rare de trouver des joueurs allemands qui parlent français, Polo. Hein.
La question, c'est est-ce qu'ils ont envie de parler français?
Ah oui.
Ça, la question. tu peux poser la même question en Suisse. Hein. Ce week-end, j'ai voulu parler en français avec Grégor Kobe. Il me dit non, j'ai appris ça à l'école, c'est fini, maintenant je suis en Allemagne. Donc voilà, c'est très clair. Hein.
Polo, une dernière question pour Martin avant de le libérer.
Quelle est la préparation psychologique pour un match aussi important que celui de samedi?
Alors moi, j'ai pas de préparation psychologique particulière. Je pense que pour s'enlever la pression médiatique qui est autour de ce match, c'est de le préparer comme si c'était un autre, même si on sait que ce sera pas le même adversaire.
En tout cas, on te souhaite plein de réussite en Allemagne, en Bundesliga, Martin Terrier, et puis un très bon match sur la pelouse du Bayern. On regardera ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans l'After Allemagne.
Merci à vous, à bientôt.
À bientôt Martin, merci Polo.
Merci à vous, ciao ciao.
Et on se retrouve très vite évidemment dans l'After Allemagne pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'After Allemagne, n'oubliez pas non plus de donner une note pour nous faire monter au classement. On se retrouve très vite, salut, ciao.
RMC After Allemagne.